Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où on pouvait voyager ? Vous vous souvenez de cette époque, vous ? Eh bien, moi, tout jeune moniteur de plongée sous-marine, passionné par la mer et les îles, je m'étais lancé le défi de visiter les plus beaux sites sur tous les différents océans. Et j'avais ma petite liste à cocher. Alors que certains achetaient leur première voiture ou ouvraient leur plan d'épargne logement, moi je faisais la cigale. Et j'ai voyagé seul, puis ensuite avec Julie et les enfants, tant qu'ils ne payaient pas l'avion, hein, bien sûr. La mer Rouge et ses dauphins, les failles sous-marines au large de Cuba, Tahiti et ses atolls, le rocher du Diamant et la plage des Salines en Martinique, etc., etc. Un des endroits les plus paradisiaques que nous avons pu visiter, c'est une plage sur la petite île de la Digue, dans l'archipel des Seychelles. J'ai nommé Lance Source d'Argent. Rien que le nom fait rêver. Elle est considérée par beaucoup de voyageurs comme la plus belle plage du monde. Ses rochers de granit et ses palmiers ont été le décor de nombreux films. Les couleurs sont vraies, là. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs. La personne que vous voyez là, là, la petite tête qui dépasse, là, tout au loin, là. Hein ? Cette personne qui est partie nager au loin dans cette mer idyllique, au milieu des poissons multicolores, des tortues marines, cette personne, c'est moi. Alors, petite pause, hein, si vous voulez m'insulter intérieurement, hein, pour vous faire râler comme ça en plein confinement à 5 degrés dehors. Oui, mais voilà. Ce jour-là, si j'étais parti nager au loin comme ça, ce n'était pas pour profiter de ce lieu magique, cette plus belle plage au monde. J'étais parti bouder. En route pour la plage, je m'étais disputé avec Julie. Et j'ai vraiment jamais profité pleinement de ce lieu. Alors, je serais incapable de vous dire pourquoi on s'est disputé ce jour-là, une bêtise comme d'habitude, hein, je pense. Mais misère des hommes, misère des hommes. Nous pouvons être dans le plus bel endroit au monde, mais ne pas être heureux. Et au cours de mes voyages, j'en ai connu des gens qui avaient fui leur pays pour fuir la souffrance au soleil, mais les blessures, le mal, étaient toujours là, à l'autre bout du monde. Et ce matin, on parle des souffrances de Jésus. Et les évangiles nous parlent aussi de souffrance dans un endroit merveilleux. Au temps de Jésus, il y avait un jardin magnifique juste à côté de Jérusalem, qu'on appelait le jardin de Gethsémané. Au pied d'une colline, il était planté d'oliviers avec un pressoir à huile. Et les touristes de l'époque, les gens qui venaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, qui était un peu leur 14 juillet, si vous voulez, hein, leurs grandes vacances. Eh bien, ces touristes, disais-je, ils aimaient bivouaquer dans ce jardin à la tombée du jour. Imaginez un peu la douceur du soir dans un pays chaud, la vue sur Jérusalem, un feu de camp, des bons amis autour, les arbres, les odeurs d'huile d'olive et de plantes aromatiques, le ciel étoilé. Nous, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un vrai ciel étoilé avec les lumières de la ville maintenant. Merveilleux. Et Jésus aimait cet endroit, nous dit l'apôtre Jean. Et c'est là qu'il a choisi d'aller le dernier soir avant de mourir à la croix. Dans ce bel endroit. Et Judas savait très bien que c'était là qu'il faudrait envoyer les soldats pour le capturer. Nous allons lire le texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Je le lis dans la version Parole de vie. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin, il se jette par terre le front contre le sol et il prie en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant une heure ? Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore et pour la troisième fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez, attention, c'est le moment. » Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Dans ce beau jardin, Jésus, Dieu fait homme, est triste jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qui cause cette tristesse immense, cette souffrance ? Souvenez-vous, dès le début de son ministère, Jésus rentre dans une synagogue, une église, si j'ose dire, et voit un homme qui a une main paralysée. Il le fait venir devant tout le monde, et là, il le guérit. Mais voilà, c'est le jour du sabbat, jour où l'on est censé ne rien faire d'autre que de louer Dieu. Et les responsables sont outrés que Jésus soit venu perturber cette tradition millénaire. Et l'évangéliste Marc nous dit que, alors, Jésus est profondément attristé. Je reprends ces mots. Il est profondément attristé par leur refus de comprendre que faire le bien, aimer l'autre, c'est louer Dieu. Et que le repos du Seigneur n'est jamais contre cela. Marc chapitre 3, 1 à 6. Et on pourrait penser que cette histoire de sabbat ne nous concerne plus, que l'Église, c'est différent. Et pourtant, moi, jeune enfant, combien de fois j'ai vu mon père, pasteur, rentrer à la maison désolé parce que des adultes s'étaient mis en colère parce que des gens s'étaient mis à leur place habituelle dans l'Église. C'est leur place dans leur culte, voyons. Des vraies disputes. Ou désolé de paroles dures contre une jeune mère qui n'arrivait pas à gérer les pleurs de son bébé. Parce que bien sûr, le silence est préférable au fait qu'elle entende l'Évangile. Ce soir-là, à Gethsémané, cette tristesse de Dieu, cette souffrance est à son comble. La dureté du cœur des humains l'amène jusqu'à la croix, le seul remède possible. La croix est la solution. La croix est la solution, mais elle marque aussi l'impossibilité pour un Dieu d'amour de vivre parmi les gens au cœur dur. Elle marque l'impossibilité pour un Dieu d'amour de vivre parmi des gens au cœur dur. Est-ce que je partage cette tristesse jusqu'à la mort ? Ou est-ce que j'ai fermé mon cœur à ce Dieu-là ? Et je lui préfère un Dieu qui me permet de bien ordonner ma petite vie sans me laisser toucher par celui qui ne comprend pas aussi vite que moi, qui ne marche pas au même rythme, qui me retarde avec ses problèmes, qui n'est pas aussi jeune que moi ou qui n'a pas autant d'expérience. Est-ce que j'ai conscience que la dureté de mon cœur est source d'une profonde souffrance pour Dieu ? À qui as-tu fermé ton cœur ? Heureux ceux qui pleurent, enseignait Jésus en Matthieu 5. Cela ne veut pas dire heureux ceux qui ont un cœur d'artichaut et qui pleurent quand la mère de Bambi meurt, ou quand Jason quitte Pamela dans votre série américaine préférée. Non, c'est-à-dire heureux ceux qui sont capables de regarder à leur propre vie et ont l'humilité de reconnaître leurs fautes. Dieu promet la consolation éternelle à ces personnes. Elle a été gagnée à la croix. Le texte nous dit ensuite que Jésus est très effrayé, ou selon d'autres traductions, pris d'une très grande angoisse. Quelqu'un comme Jésus, qui avait la loi de Dieu au fond de son cœur, comme nous le dit le psaume 40, il connaissait et il comprenait les prophéties sur le Messie et les souffrances physiques qu'il devait aller endurer. Vous savez, il peut y avoir des souffrances glorieuses aux yeux des hommes. Je peux souffrir à faire des pompes pendant toute l'année, mais arrivé à l'été, je ferai le fier en t-shirt. Et vous verrez des sportifs, des artistes, une fois le succès enfin arrivé, pleurer devant la caméra au souvenir des souffrances qu'ils se sont imposées à leur corps par orgueil, pour toucher le ciel, comme on dit entre guillemets. Mais où est le ciel vraiment ? Il va, lui, vers la croix, qui est un scandale, une honte totale. Pour les Romains, la croix, c'était le châtiment le plus humiliant, signe vraiment de mépris pour le condamné. Vous connaissez Spartacus ? Vous avez déjà vu des péplums ? Quand les esclaves, en suivant le gladiateur Spartacus, se sont révoltés, 70 ans avant la naissance de Jésus, les Romains avaient fini par les mater et ils avaient crucifié 6000 personnes le long des routes. On est vos maîtres, restez à vos places. Et le monde romain s'est moqué grandement des premiers chrétiens. C'est quoi ça ? Votre Dieu, c'est un loser. Il n'y a pas de Dieu qui peut être sur une croix. La croix, c'est vraiment le dernier endroit au monde où un être humain pourrait être. Et de nos jours encore, la réputation est tout. Et j'ai même, par exemple, encore plus encore. Si tu veux tuer, entre guillemets, quelqu'un, tu rameutes du monde et tu ruines sa réputation sur les réseaux sociaux, dans les émissions à la mode, parce qu'il a dit un mot de travers. Pas besoin de preuves, pas besoin que ce soit vrai. Alors j'ai appris un truc, les jeunes, ils appellent ça maintenant « mettre quelqu'un dans la sauce ». Ce passage nous montre un Dieu qui place l'obéissance au-dessus de la réputation. Si je dois boire cette coupe de souffrance, qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est-à-dire qu'il place le bien des autres au-delà de sa propre image. Et c'est un défi qui nous est lancé ce matin. Est-ce que je suis prêt à souffrir de la seule souffrance glorieuse aux yeux de Dieu, celle qui est causée par le fait de placer l'obéissance au-dessus de la réputation ? Est-ce que je serai heureux lorsque les hommes répandront toutes sortes de calomnies sur mon compte à cause de Jésus, comme il le dit en Matthieu 5. Est-ce que je place mon obéissance à Jésus au-dessus de mon image ? Combien de fois j'ai menti au travail pour sauver la face ? Ah, je n'ai pas fait ça pour toi encore parce que j'avais de gros projets, tu vois. Autrement dit, je communique, j'avais des gros projets, toi le tien, il passe en dernier. Toi, tu as un petit projet. Au lieu de dire, ben, excuse-moi, j'ai mal travaillé, ou je ne sais, j'arrive pas à gérer mon temps, ton projet est important et je m'y consacrerai. Désolé. Et j'ai appris, par la force des choses, que c'est toujours plus efficace de faire ça au final. J'aimerais enfin m'attarder sur les disciples dans ce texte. Pierre et les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Je dois avouer avoir de la compassion pour eux. Certaines personnes aiment discuter pendant des heures. Moi, je ne suis pas un très bon invité ou hôte. Après un repas, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller faire la sieste ou dormir. J'annonce d'ailleurs officiellement ma petite sieste en début d'après-midi aujourd'hui. Et dans mon cas, c'est encore plus le cas si, comme les disciples, ce jour-là, il y a eu du vin à table. Comme le dit ma femme, tu n'auras jamais le temps de devenir alcoolique, un verre et tu dors. Bref, on peut se mettre à la place des disciples. Incapable par trois fois de rester réveillé pour prier après un repas de fête. Ils sont à l'heure fatidique de l'histoire de l'humanité, mais ils ne comprennent pas la gravité de la situation. Ce qui cause aussi la souffrance de Jésus, c'est que l'être humain ne comprend plus la gravité du péché qui mène Jésus à la croix. Par exemple, Jésus aimerait que des écailles tombent de nos yeux et que l'on comprenne que s'il y a des meurtres dans notre société, c'est que tous, ont créé une ambiance de mort avec notre bouche. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en reprendra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, nous dit Jésus, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Matthieu 5. Est-ce que tu as conscience de la gravité du moindre péché? Pour conclure, ce qui me touche dans ce passage, c'est la nature profonde de Jésus. Moi, si je souffre, je ne pense plus qu'à moi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et je tiens à ce que tout le monde me plaigne dans la maison. Les femmes se moquent souvent de leur mari à ce sujet. Le gars a un rhume, on dirait qu'il va mourir et rassemble toute la famille autour de son lit de mort. Si pour un moindre rhume je peux avoir cette attitude, que dire de Jésus alors que son chemin va vers la croix? Eh bien, on le voit malgré tout en souci pour ses disciples. Priez pour résister quand l'esprit du mal vous tentera. On trouve cette phrase dans le Notre Père. Et il n'est jamais trop tard pour prendre le péché au sérieux et prier de ne pas tomber. Malgré son angoisse suprême, comme dit le chant, causée par la dureté de nos cœurs, notre incapacité à voir la gravité de notre péché, les souffrances et l'humiliation qu'il provoque chez les autres, et donc chez Dieu, malgré ça, il se penche vers nous. Il ne fuit pas la souffrance, mais meurt pour nous. Nous savons que ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous nous en réjouirons la semaine prochaine. Mais en attendant, contemplant la seule vraie grandeur, celle du Dieu qui s'abaisse. Amen.